Tu m'as dit 48. Après, 1800.
Alors, ça soulevait un problème, une question extrêmement importante, qu'on avait commencé à aborder la semaine dernière. On nous parle de droits et de devoirs. Et on dit, on parle du devoir de travailler et du droit d'obtenir un emploi. Alors, c'est des notions et qui sont relativement nouvelles, puisque en termes de limitation de la liberté individuelle, on avait vu que la nuisance permettait d'empêcher de faire quelque chose, de nous interdire de faire quelque chose. Ici, on a l'apparition de concepts nouveaux, c'est-à-dire que la Constitution nous permet d'obtenir des choses. Elle affirme qu'on peut avoir un emploi, que c'est un droit. Donc la collectivité, quelque sorte, puisque on peut dire qu'une constitution, c'est un contrat social. C'est le terme qu'avait employé Jean-Jacques Rousseau. Donc il y a un contrat entre l'individu et la collectivité. Et dans ce contrat, l'individu a le droit d'obtenir un emploi. Vous vous souvenez, il y a deux ou trois séances, on a parlé de la différence entre la loi et le contrat. Le contrat, c'est deux entités qui s'engagent. Et là, il y a un engagement, la collectivité, vis-à-vis de n'importe quel individu, d'obtenir un emploi. Et puis, d'un autre côté, mais pas forcément en opposition, mais affirmé dans le même temps, il y a un devoir de travailler. Là, de devoir, on est plus dans le cadre de la loi d'interdiction, qui dit devoir de travailler, c'est-à-dire que c'est interdit de ne pas travailler.
C'est une obligation de travailler.
C'est une obligation. On dit que la loi il y avait deux branches de la loi, une branche l'empêchement et une branche l'obligation. Empêchement, la loi interdit de faire quelque chose, où la loi vous oblige à faire quelque chose. Donc, lorsqu'on dit chacun a le devoir de travailler, ça ressemble, c'est de nature législative, proprement dit, c'est une loi d'obligation. Par contre, lorsque la Constitution nous dit on a le droit d'obtenir un emploi, bon, c'est pas une loi, puisque la loi, encore une fois, c'est soit une obligation, soit une interdiction, c'est de nature contractuelle et c'est nouveau. C'est nouveau, on ne l'avait pas vu encore. Alors, on l'avait un petit peu effleuré dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le rappelle dans son préambule, et cette notion d'affirmer des droits. Cette notion d'affirmer des droits, mais qui n'avait pas été vraiment explicitée dans la Déclaration des droits de l'homme. Là, elle est explicitée puisque on a le droit d'obtenir un emploi. Donc ça veut dire que si on lit bien le sens de la phrase, ça veut dire que chaque individu est en capacité de réclamer quelque chose dans ce domaine-là vis-à-vis de la collectivité. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais que c'est pas respecté.
Ouais.
Et ça me manque le meilleur.
Lorsqu'on lit cette toute petite phrase, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir l'emploi, on se demande si c'est simplement une phrase en l'air. Et alors, si c'est une phrase en l'air ou une déclaration de bonne intention, bon, on se demande si c'est un poème, une poésie, ou si c'est la Constitution française. Parce que si il est admis qu'on puisse mettre dans la Constitution française, qui est la clé de voûte de tout notre système législatif, des phrases qui sont des déclarations de bonne intention ou des phrases qui sont poétiques, ils sont poétiques, il y a un problème, il y a un énorme problème.
Donc ça veut dire que si l'État ne respecte pas ce droit, il est responsable, entre autres, on peut retourner.
Mais clairement, cet article 5 du préambule de la Constitution de 46, qui est partie intégrante de notre Constitution, est énorme. Droit d'obtenir un emploi. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas... Vous allez au guichet de l'emploi et alors, bon, c'est, alors on va vous dire oui, ben, il y a Pôle emploi.
L'emploi, ce n'est pas nécessairement
un emploi.
Voilà. Le droit d'obtenir un emploi, c'est... Bon, ou alors les mots n'ont pas vraiment de sens. Mmh. Mais droit d'obtenir un emploi, ça veut dire que on doit en donner un.
L'État a un devoir.
L'État, puisque la Constitution, c'est un contrat social entre la collectivité représentée par l'État, parce que c'est un système représentatif, et l'individu, et chaque individu. C'est le contrat social. Donc, moi, je lis la Constitution, je dis j'ai droit d'obtenir un emploi, où est-ce qu'il faut s'adresser? Mais c'est le guichet de l'emploi. Je veux un emploi et je dois sortir avec un emploi. Donc si l'État n'est pas capable, n'est pas en mesure, ne peut pas fournir un emploi, il est en faute. C'est écrit dans la Constitution.
Est-il puni ?
Alors, soit il faut changer la Constitution, on va toujours avoir cette même alternative, soit il faut réécrire la Constitution parce que... c'est pas possible, c'est mal écrit, pourquoi ? Mais non, c'est pas. Alors, il faut l'enlever. Soit il faut l'enlever, soit il faut faire en sorte que ce soit respecté. Et pour que ce soit respecté, il faut fournir un emploi à celui qui en demande. Alors, le système de Pôle emploi ne répond pas à cette obligation. Pôle emploi, il vous donne un emploi, s'ils en ont. S'ils n'en ont pas, ils ne vous en donnent pas. Non.
Est-ce qu'on considère que ce droit est satisfait si on donne un emploi qui est genre à 60 km sous notre travail ou pas dans notre secteur de compétences ou...
Alors,
comme ça. C'est pas précisé là.
Voilà. Alors, c'est pas précisé et c'est une erreur de ne pas préciser ça. Parce que on peut dire cette phrase, il faut l'enlever parce qu'on ne peut pas le faire. Soit cette phrase, il faut la laisser, donc il faut l'appliquer, mais si on l'applique, il faut la préciser. Et si on ne la précise pas, alors on peut ne pas la préciser, et à ce moment-là, on répondrait à ta question, oui, on peut te proposer n'importe quel emploi, n'importe où. Et à ce moment-là, l'État s'exonérerait, enfin dirait, voilà. Mais en tout cas, il faut en débattre. Il faut que le citoyen soit au courant de la signification de cette phrase. Si sa signification c'est, et puis alors qu'on le dise, qu'il y ait une information, qu'on en parle dans les médias, qu'on dise, voilà, oui, au fait, tenez, il faut qu'on vous parle un peu de l'article 5 de la Constitution, et le droit d'obtenir un emploi, ça veut dire que vous allez au guichet d'emploi et puis on vous trouve un emploi, mais on ne peut pas vous dire lequel, on ne peut pas vous dire où, mais ce sera un emploi.
Ça veut dire aussi, si on veut extrapoler, c'est qu'en fait, quand on paye les indemnités pour l'emploi, je ne sais pas comment ça s'appelle, les indemnités de chômage, en théorie, l'État peut donc vous demander de faire un travail en échange. que du coup, elle vous donne du travail, en gros. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, on extrapole, là.
Oui.
Là, on est...
On extrapole.
Si on veut rester bien... Là, la question que...
Parce que du coup, il répond
non, mais
en vous donnant
la question que tu poses, c'est...
Non, mais parce que travail, là, le,
alors...
Non, mais si tu te fais travailler, si tu demandes un travail...
Je vais tenter une réponse. Pôle emploi, enfin les ACIDIC, l'assurance chômage, c'est une assurance. Ouais. C'est-à-dire que si je perds mon emploi, j'ai une assurance qui me garantit une rémunération. On n'est pas dans un cadre constitutionnel.
D'accord.
On est dans un cadre contractuel, privé, quasiment. Hein bon. L'obligation telle qu'on la lit dans la Constitution est d'une autre nature. Elle est l'obligation de fournir un emploi. Elle n'est pas de garantir la rémunération dans le cas où je n'ai pas d'emploi. Elle règle ce problème. Elle règle le problème de la perte d'emploi en disant que la perte d'emploi, ça n'existe pas. La perte d'emploi, constitutionnellement, la perte d'emploi, ça n'a pas de sens. Mais ça va même encore plus loin, je dirais, la radicalisation, la façon radicale de lire cet article. Ça veut dire que le chômage est illégal. Mais je crois qu'il y a un gars qui a dit ça, c'était Bernard Tapie. Et non, qui c'est qui avait dit « je veux rendre le chômage illégal » Non, c'était, il y avait un homme politique qui avait ce programme « rendre le chômage illégal ». Bref.
On va punir les chômeurs, c'est ça.
C'était cette idée, alors, ça me reviendra.
Mais en théorie, il est déjà illégal.
Il est anticonstitutionnel.
Non, oui, là, il est. Voilà. Bon, illégal ou anticonstitutionnel, effectivement, on peut dire que c'est pareil. Non, il est. Alors, il est anticonstitutionnel. Alors, pas dans le sens où. Oui, dans le sens où si je n'ai plus d'emploi, je vais voir l'État, il m'en donne un autre.
Est-ce que c'est pas ce qui fonctionnait dans les régimes autonomistes ?
Oui, tout à fait. C'est l'idée. C'était l'idée. Alors, c'était l'idée et pas que... Alors, ça me permet d'amener ce que je voulais dire. Il y a eu des expériences en France et ailleurs, on ne connaît pas, mais en tout cas en France, en 1848, toujours la grande année, Louis Blanc a proposé les ateliers nationaux. L'idée de l'atelier national, c'était ça. C'était la société, la collectivité, garantit un emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, vous venez, vous rentrez à l'atelier national. Bon, et c'est... à la même époque où Proudhon avait proposé sa Banque du Peuple, rien à voir. Mais deux initiatives qui ont été torpillées par la démocratie représentative qui commençait à s'installer. Elle n'a pas été longtemps représentative parce que le président qui était élu s'appelait Bonaparte et puis il est devenu empereur. Bon. Mais en tout cas, on retrouve l'idée de l'obligation de la puissance publique à fournir un emploi à qui le demande, quel que soit, on ne dit pas d'ailleurs quel est le motif. Le motif, j'ai perdu mon emploi, ou je ne peux pas en trouver, ou je n'ai pas envie d'en chercher, donc je vais au guichet, on m'en donne. Bon. Eh bien, les ateliers nationaux, c'était ça. Bon. Donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce que veut dire cette phrase. Soit on la garde et il faut soit on la garde sans la préciser, comme tu dis, il n'y a pas d'autre précision, et on doit effectivement fournir quelque chose qui ressemble aux ateliers nationaux de Louis Blanc, et soit on la raye, comme ça c'est plus clair, soit on la précise. On a le droit d'obtenir un emploi à tel endroit,
dans ses compétences
ou selon que si, selon que ça, ou alors on fait pourquoi pas la réduction, la rédaction bourgeoise, c'est-à-dire on met une virgule Puis on dit, la loi déterminera dans quel cas, hein, comme on a fait pour la nuisance. Mais bon, on fait quelque chose. On ne peut pas laisser une phrase comme ça. Bon, ça, c'est pour le droit d'obtenir un emploi. Et le devoir de travailler. Là, c'est intéressant aussi, à creuser le devoir de travailler. Alors, devoir. Bon, encore une fois, soit c'est de la poésie, et puis le verbe devoir, c'est je dois. Alors, parce qu'il y a des lois, elles sont pas très nombreuses, mais il y en a un certain nombre qui prévoient pas de sanctions. C'est bizarre, hein, mais ça existe. Hein. Bon. Eh bien, si c'est un devoir, mais qu'il n'y a pas de sanction, c'est pas un devoir. Bon, un devoir, il y a une sanction. Je dois travailler, si je ne fais pas, il y a une sanction.
Après, il y a toujours la définition de qu'est-ce que c'est que le travail.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-ce qu'on peut garder ça, vraiment, si on est un tant soit peu rationnel dans une rédaction législative, et je pense que pour la Constitution, il faut quand même l'être un peu. Bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la notion de devoir de travailler? Bon, avant de prendre un crayon et de le barrer, on est là pour ça, on va quand même essayer de réfléchir, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Est-ce qu'on peut écrire ça, le devoir de travailler?
Là, je pense
que c'est quelque chose qui peut s'écrire dans une constitution. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il est rémunéré, à mon avis. Parce que autrement, tout le monde travaille. Une femme au foyer travaille.
Alors, non. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas écrire ça?
C'est complètement flou. On vient d'en parler.
C'est flou, on ne peut pas. Oui, c'est irréaliste. Voilà, c'est pas.
Alors, est-ce qu'on peut le conserver, mais le préciser?
Je trouve que c'est hyper difficile à définir ce que c'est que le travail, en fait. Et des fois, on a l'impression de passer du temps oisif à
juste. Sauf si tu écris dans la Constitution, le travail, c'est ça.
C'est pas
tu précises.
Oui, mais c'est. Enfin, la nature du travail me paraît hyper difficile à encadrer, en fait. Parce que des fois, on a l'impression qu'on passe du temps oisif, qu'on a des films, etc. Et finalement, on a appris plein de trucs.
Attendez. Pas tous ensemble. Savoie nous dit on ne peut pas le préciser parce que le travail, on ne peut pas le définir. Non mais oui, c'est très compliqué. Mais la Constitution, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle peut dire, pourrait dire, chacun a le droit de travailler, le travail étant considéré comme un emploi dans une entreprise à 35 heures avec en gagnant le minimum le SMIG, par exemple. Elle peut écrire ça.
Mais donc ça veut dire qu'une femme employée,
elle n'est pas dans. Non, attendez. Alors, on peut mettre femme au foyer. Voilà. Bon, est-ce que ça a un sens? Ça a un sens de le définir. On peut faire une liste, de dire voilà, être est considéré comme travail, un emploi à 35 heures avec gagnant le minimum de SMIC. Une femme au foyer qui élève plus de deux enfants.
Un bénévolat.
Voilà. Bon, mais non, mais est-ce que ça a un sens d'écrire ça? Est-ce qu'on peut. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée d'écrire dans une constitution, dans un contrat social de tout un peuple, avec son entité représentative, d'écrire une obligation de chacun de travailler, charge à définir ce travail, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens que...
S'il y a des entreprises privées, comment ça va se passer?
Oui,
c'est l'État qui va
embaucher. Non, c'est pas forcément ça que ça dit. Hein.
Est-ce qu'on veut travailler?
L'État doit fournir un emploi, ça ne veut pas dire un emploi dans la fonction publique.
Hein. Non, mais on a fini avec ça. Là on est l'obligation de travailler.
Est-ce que la recherche du travail est considérée comme du travail?
Non, mais là, on sait rien. Alors, on essaye de réécrire. Bon, est-ce qu'on est déjà d'accord pour dire que écrit comme ça ne veut rien dire?
Oui.
Que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
Ben, ça a plusieurs sens.
Je pense que
c'est
la première.
Ouais, ça reste un sens.
On
ne sait pas.
Je pense que chaque. On la supprime, c'est aussi bien. Hein.
Écoutez, c'est quand même une phrase extrêmement importante. Je propose, on va faire un tour de table. Et puis, vous allez dire si. Si vous étiez en charge de réécrire ce préambule, cette phrase, vous la conserveriez telle quelle, vous la supprimiez, ou vous la riez et de quelle façon? Christiane. Ah, on peut dire je ne sais pas. Hein.
Oui, moi c'est complexe.
Ou on peut dire aussi je n'y ai pas assez réfléchi. On en reparlera un peu plus tard. Ça aussi.
Non, je ne suis pas comme ça.
Si, c'est une très très bonne position de dire j'y ai pas encore. C'est pas parce que vous dites. Bon, très souvent je dis je sais pas, j'ai pas assez réfléchi au problème. Et je me sens pas honteux de le dire.
Ou alors je délègue ma réponse à quelqu'un.
Oui,
c'est la stratégie bourgeoise, ça.
Hein. Ouais, c'est la stratégie bourgeoise.
Bon.
Alors, moi, je sais pas, mais devoir travailler, moi, ça m'a été inculqué dans mon éducation. Pour moi, c'est pas tellement une obligation.
Non, mais.
C'est ça, mais.
Faut répondre à la question.
Donc, précisément. Tu maintiens pas la phrase.
Ah ben non, mais c'est comme tous les articles précédents, je trouve que c'est plein d'ambiguïté. J'ai du mal à me fixer parce que c'est toujours ambigu. On peut l'interpréter comme on veut.
Ah, alors moi je la maintiens. Oui. Je la maintiens, mais je la modifie.
Voilà.
Je veux dire, je n'ai pas réfléchi.
Voilà.
Mais oui. Il faut préciser, le droit, c'est pour moi c'est fondamental,
oui.
le droit d'avoir un emploi. Oui. Et si l'État qui est le responsable de la société n'est pas capable de me le donner, il faut qu'il puisse être puni. Quoi.
Bon, alors.
Donc, et de la même manière, je dois travailler, mais si je refuse de travailler, ça doit être puni.
Bon, alors, c'est proposes de la conserver, de la réécrire et de la préciser.
La préciser.
Bon, ouais. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que, après réflexion, tu nous dises la rédaction que tu proposes.
D'accord.
Voilà. Mais ça peut être la semaine prochaine ou dans 15 jours, on en voit. Mais voilà. De toute façon, c'est quelque chose qui va revenir. Hein. Voilà. Mais on sait que cette phrase, certains d'entre nous imagineraient de la préciser, de la garder, mais de la préciser. Il paraît que c'est intéressant, ça pose deux notions intéressantes, mais qui ne peuvent pas, en l'état, être crédible dans une constitution.
Alors, je peux donner un exemple. Moi, j'ai connu ça. J'étais dans une entreprise où le chômage n'existait pas. C'est-à-dire, je ne pouvais pas perdre mon emploi. Hormis si je faisais une connerie, mais je veux dire, je ne pouvais pas perdre mon emploi parce que mon emploi disparaissait. On devait obligatoirement m'en trouver un autre.
Oui. C'est en fonction publique, ça.
Ah,
oui.
Mais.
Mais c'est pas simplement la fonction publique, c'est écrit aussi pour les entreprises privées. Enfin,
mais
n'importe quelle entreprise, quand on est en entreprise, c'est le devoir d'entreprise de trouver un travail. Quand on est en entreprise, moi je suis en entreprise privée aussi, quand des fois il y a des trucs qui se passent, les gens sont
en restructuration,
et bien c'est à l'entreprise de se débrouiller pour retrouver.
Donc, ça a existé, quoi. Ça a disparu parce que l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est parti en confiture, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ceci dit, c'est faisable. Faut pas s'imaginer que c'est pas faisable. On est capable de faire des entreprises sans chômage. Mais ça nécessite une organisation.
Sans chômage, ça dépend. Si on vire la personne, elle est au chômage.
En changeant quoi. Après, on lui trouve un autre emploi.
On est dans le cadre de la Constitution, là. Hein.
Non, donc, si c'est faisable sur une entreprise, ça peut être faisable pour moi, sur une. Encore mieux, sur une société complète, quoi.
Encore voilà. Mieux, je dirais plus difficilement, plutôt qu'encore mieux. Enfin,
Bon, je vois que je suis pas le seul, là.
Bon, Annie.
Moi, je suis partisan de la supprimer complètement. Mmh. Parce que c'est une France qui est contre la liberté. Et dans les pays où il y a eu le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, on a vu le résultat. Pas envie que ça recommence.
Mmh. Hein. D'accord.
Parce que dans un emploi, vous ne pouvez pas mettre deux personnes si c'est une personne, parce que ils ne vont pas se partager le travail, les deux personnes n'ont plus travaillé. Et ça, c'est un axiome dans la conception du travail qui est... parce que si comme ils sont deux, l'autre est, c'est comme un enfant, hein, un frère, des frères, un soeur, un bon ami, la personne, mais pas, et dans le travail, c'est la même chose. Donc, je pense que, et puis le droit d'obtenir un emploi, est-ce que s'il n'a pas un emploi, est-ce qu'il ne peut pas créer son emploi? Dans notre vie, vous n'avez pas. Des fois, les gens créent leur propre emploi.
C'est pas interdit.
Bon, donc,
moi je trouve que c'est,
très bien.
C'est donc une phrase.
On a une opinion argumentée là.
Ça signifie voilà. Quelque chose à un régime communiste, quoi. C'est ce qui s'est passé. Nous, nous ne sommes pas un régime communiste, je ne vois pas pourquoi elle est là.
Bon.
Maintenant, après, on a à choisir si on veut du communisme ou pas. Hein, c'est... Mais dans notre constitution, elle n'a pas sa place. Dans la notre conception de l'organisation, on ne peut pas toujours tout demander à l'État non plus, parce que si l'État devient... vous êtes à la merci de l'État, c'est lui qui commande, vous avez une oligarchie, après, l'État, vous devez faire, de suivre. C'est ça. Il ne faut pas tout donner à l'État, parce que le droit d'obtenir un emploi, donc, comme disait, c'est à l'État de le faire, si le privé ne peut pas le donner, et on va être lié à l'État. Et l'État, ben, c'est comme ça, et ceux qui sont en haut, ils vont garder leur place et ils ne la laisseront pas. Hein.
D'accord, ok. Donc, voilà. Donc c'est une opinion, et en plus qui est argumentée, les arguments qui sont partagés ou pas. Jean-Noël ?
Je suis
du même avis.
Pour une fois.
Excuse-moi, David, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est une question difficile. Il me semble que, effectivement, dans notre société, si on ne travaille pas, on a un problème.
Il n'y a rien à faire,
c'est ça. Mais c'est logique. On travaille dans tout ce qu'on fait, quoi. On veut manger, il faut planter les légumes, il faut les récolter, il faut mettre de l'eau, enfin bon voilà. Si on veut manger, il faut aussi cuire les aliments, il faut les cuisiner, enfin au moins cuisiner soi-même. Il y a des choses de base, quoi. Si on veut dormir, il faut un lit, donc qui c'est qui va le faire le lit, enfin bon, il y a tout un tas de besoins, l'eau, qui c'est qui va l'amener, qui c'est qui va maintenir les systèmes d'évacuation, enfin, tout un tas de choses qui doivent fonctionner. Quoi. Ces choses qui doivent fonctionner, il faut que des gens les fassent fonctionner. Donc, effectivement, on peut dire que, bon, que tout le monde participe et pas simplement certains. Donc que chacun doive travailler, on peut dire oui, pourquoi pas. Après, dans la mise en œuvre, ça ne veut pas dire qu'il faut être enchaîné au travail. Donc, moi, je serais plus, après, pour plus de liberté dans le travail, et peut-être assouplir la façon de travailler, mais, et donner du travail, on va dire, en commun, quoi, à la communauté. Et donc, pourquoi pas, effectivement, garder ça, mais préciser, déterminer les choses.
Oh, tu rejoins un peu Jacques, là.
Voilà.
D'accord. Pierre ?
Alors, bon, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est un article qui avait tout son sens de la Constitution de 46, contre le plein emploi. Moi, je serais d'avis de la réécrire, mais en même temps, trouver des mots différents, parce qu'on ne pourra pas donner un emploi à tout le monde.
Mais tout le monde travaille. Enfin, l'emploi, ça dépend ce qu'on entend. Après, l'emploi, c'est du sens. C'est le travail. Est-ce qu'emploi, c'est le salarié ? Mais il y a plein d'autres choses où on travaille sans être salarié.
Tu vois la entre travail et emploi.
Oui. Parce que travailler, voilà. Oui. Mais emploi.
Donc l'argumentation.
Alors, Pierre, est-ce terminé
Oui. Bah, non, mais il a raison. Parce qu'il dit, mais après, bon, il faut changer les phrases entre emploi, il disait emploi et le travail.
Donc le conserver, mais le réécrire. Bon, donc ça reste ouvert parce que est-ce que cette réécriture va être possible? Enfin bon, bon. Véronique.
Alors moi c'est vrai que c'est pareil, le mot devoir de travailler, ça me gêne, c'est le mot devoir en fait. Tout est travail. Un enfant qui apprend à marcher travaille. Enfin, je veux dire, toute action que tu fais dans ta vie a un rôle collectif. ce n'est pas un devoir, c'est, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Donc, du coup, pourquoi garder ce terme devoir de travailler?
Oui, attention, il y a deux propositions qui sont, qui veulent, votre meilleur, j'aurais devoir de travailler, mais je garde droit de devenir un emploi. On peut, voilà. On peut dire ça aussi.
Moi, je serais plus dans
ça.
Dans ça.
Ça va?
Moi, je suis partagé entre le. Bah, pareil, cette histoire de devoir, en chaque fois. Effectivement, ça va, il me semble, à l'encontre des libertés individuelles, de savoir si on veut voilà, le faire ou pas, mais à la fois, je me dis, il y a aussi le besoin de la société, de. Est-ce que la société peut exiger, est-ce qu'elle a un droit d'imposer à ses membres une contribution minimale, ou je ne sais pas. Donc je suis un peu partagé entre deux sources de légitimité que j'arrive pas à trancher, en fait, la légitimité à la fois des individus d'être libres et la légitimité de la société de vouloir fonctionner. Voilà, donc je ne sais pas ce que je ferais. Voilà.
Faut trancher quand même. Hein.
Faut trancher. Ah, là, je vais mettre la virgule et je vais réfléchir plus tard.
Ouais. Hein. D'accord. Plus tard. Non, mais bon, c'était pour détendre la Thomser. Manifestement, ce préambule et à l'intérieur de ce préambule, cette phrase-là est inspirée par les communistes, qui étaient 30% à l'époque. Hein, c'est le gouvernement provisoire qui a été dirigé par De Gaulle pendant quelques mois seulement. De Gaulle, je crois, a démissionné en février 46 ou quelque chose comme ça, et donc il a été élu à l'unanimité je crois en septembre, octobre 46, et la constituante, qui a proposé la constitution, qui va être la constitution de la Quatrième République, a été rejetée. Ils se sont réunis, ils ont fait une deuxième mouture qui a été approuvée. C'était ce préambule-là qui a été conservé ensuite, comme vous le savez, dans la constitution de la Cinquième République. C'est manifestement d'inspiration communiste. On a dit, bon, c'est tout à fait le protocole des pays communistes, donc des pays du bloc de l'Est, le devoir de travailler et le droit de devenir un emploi. Voilà. C'est le système qui était en place. Alors, me semble-t-il, sans entrer dans les options politiques, ne serait-ce qu'au niveau du mécanisme constitutionnel, il s'agit de savoir qu'est-ce que ça implique comme vision société, effectivement, de dire on est obligé de travailler, même si on définit ce que c'est que le travail, c'est une notion qu'on voit. Il y a un devoir, la citoyenneté, le droit finalement de vivre et de parler en prison, c'est de travailler. Et puis, c'est là que les deux choses sont articulées. Le droit d'avoir. Parce que si on n'a pas le droit d'avoir un emploi, on peut difficilement obliger de travailler si, d'un autre côté, on ne fournit pas un emploi. Bon, donc c'est une vision de la société extrêmement précise. Hein. L'État fournit un emploi et tout le monde doit pouvoir justifier un emploi. Voilà. Donc, effectivement, ça se joue là-dessus. Ça se joue sur une certaine vision de la société. Donc le but de réfléchir là-dessus et de faire ce petit tour de table, c'est pas tellement pour entrer dans le débat politique, puisqu'on a dit qu'on n'était pas au niveau du débat politique, mais de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière la rédaction, hein. Et peut-être aussi se demander si cette phrase, elle est cohérente avec l'organisation de la société actuelle. Avant de dire moi je l'arrête parce que ça ne veut rien dire, moi ce qui me frappe le plus c'est qu'elle est totalement incohérente ou anachronique. Elle est anachronique par rapport à tout le reste. Voilà. Bon. Alors, On continue ensuite, la phrase continue ensuite, « Nul ne peut être lésé dans son travail et dans son emploi, réunion de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Bon, ça, ça, je pense que là-dessus, il n'y a pas tellement de problème.
Si.
Oui. Bien sûr que si. D'accord.
Il y a un problème ?
Bien sûr.
Quel problème il y a ?
Je connais nombre de militants politiques ou syndicaux qui subissent des...
Bien sûr. C'est le principe, là.
Oui, mais je veux dire, c'est pareil, c'est pas appliqué, quoi. C'est...
Alors, très bien. Alors, c'est pas appliqué.
Elle est prudente.
Non, ça veut dire que bon, cette phrase te paraît légitime. Elle paraît légitime à tout le monde. Hein? Cette garantie du citoyen de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi. Alors, là, on dit travail ou emploi, hein. C'est-à-dire qu'emploi, tu es salarié. Ouais. Travail, ça veut dire, par exemple, je suis artisan, maçon.
Tout à fait.
Bon. Et je ne peux pas être lésé, c'est-à-dire subir un préjudice quelconque, de quelque nature que soit ce préjudice, en raison de mes origines, de mes opinions. Alors, opinion, c'est large, hein. Mes opinions. Ou de mes croyances, alors ça va être des croyances.
Hein. Ouais, bon.
Il y a une chose, est-ce que le contraire, enfin, la réciproque est valable aussi, parce que une personne ne peut pas être lésée, mais quand il y a, au sein du prosélytisme ou des opinions, il y a l'autre sens. Il y a des fois les empleneurs qui embêtent, mais des fois il y a l'autre sens aussi. Et dans l'autre sens, ce n'est pas toujours évident non plus pour l'employeur. Moi, je me souviens d'un salarié. Qui avait obligé ses collègues à faire le ramadan parce qu'il voulait être à rentrer le plus vite possible chez lui. Et là, parmi les collègues, il y en a un qui n'a pas voulu faire le ramadan. Vous faites quoi ?
C'est la différence, hein.
Oui, non, mais je veux dire, c'est est-ce que nul ne peut être lésé, mais est-ce qu'il y a la réciproque ?
Alors.
Mais on ne peut pas imposer à quelqu'un de faire le ramadan, quand même.
Ah ben,
attendez, moi, je ne
sais pas. C'est vrai qu'ils étaient en déplacement et tout, au travail. Ouais.
C'est autre chose, le ramadan. Parce que le ramadan, c'est des croyances personnelles. Tu ne peux pas imposer des croyances personnelles.
Parce que là, ça avait été, on fait le ramadan, on travaille, on ne fait pas, on ne mange pas ce soir.
Oui, mais qui l'avait imposé ?
Le chef d'équipe.
Le chef d'équipe.
Ah oui. Bon, vu comme ça, c'est contraire.
C'est contraire à la Constitution.
Premier niveau d'analyse, toujours pareil, est-ce que cette phrase est claire ? Est-ce qu'elle est précise ? Bon, je pense que oui, c'est clair, c'est précis, de ce point de vue-là. Bon, après.
Est-ce que c'est vraiment précis, ça ?
Oui, alors,
est-ce que c'est suffisant ? Non.
Est-ce que c'est assez précis ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Léger, ça veut dire subir un préjudice. Alors, c'est très large.
Il y a des préjudices qui sont quand même rentrés, enfin, qui sont d'actualité. Le harcèlement, les choses comme ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant comme des préjudices. Et que, voilà, il y a des nouvelles définitions du préjudice qui sont arrivées. Donc, pour moi, c'est pas.
Non, mais c'est
lésé. Enfin,
c'est qu'il faut dire en raison de son sexe, ses orientations sexuelles, enfin voilà, peut-être ajouter des trucs sur origine, opinion,
croyance. Non, sa voix se pose la question du mot lésé. Il se dit, est-ce que lésé, on comprend bien ce que ça veut dire. Oui. Enfin, c'est ça qui me pose une question.
C'est les définitions de change selon l'époque, en fait, ce qu'on met dans la.
Oui, mais ça va être prêt pour n'importe quel verbe.
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est précis si on ne sait pas le contenu de ce mot ?
Alors, est-ce que léser, c'est précis ?
Pour moi, oui. Je ne sais pas.
Alors, si on dit oui, on argumente. En quoi c'est précis ?
Ça veut dire faire du tort.
Un tort plus ou moins grave, mais un tort. Voilà, ça ne précise pas. C'est...
Tout le monde a l'air contre toi. Hein.
Ouais.
Moi, je suis contre.
Non, mais...
Non, toi, c'est plus peut-être dans la suite que ça te gênait. Tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de termes qui étaient après origine.
Non, sa voix, il dit lésé, c'est pas assez précis. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et tout le monde a l'air de trouver que lésé, c'est précis. Moi aussi, je trouve que c'est suffisamment précis. On va voir si en mettant un synonyme, on a toujours le même problème. Si à la place de lésé, tu mets subir un préjudice.
Ça va mieux?
Ça va mieux?
Non, c'est
sûr. Alors, alors comme je lis dans tes pensées, tu dis non parce que tu dis un préjudice. Oui, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un préjudice, parce que le préjudice, ça change avec le temps, avec les époques. Un jour, c'est un préjudice, et puis 10 ans après, c'est pas un préjudice. Oui, mais ça, tu peux le dire de tout. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que la loi évolue que le terme, lui, n'est pas précis. Préjudice est précis, mais il va être, au fur et à mesure...
Ah, donc il y a virgule,
repréciser.
C'est précisé dans la loi, sous-entendu,
finalement. Par contre.
Oui, alors. Oui, c'est vrai. Non, mais il a raison, finalement.
Ah bon?
Oui.
Alors. Par contre, nul peut être lésé, moi je dirais. Le problème, c'est pas par qui, quoi. Parce que ça peut être lésé.
Non, mais.
Son employeur. C'est pas précisé. Par des collègues.
Lésé. Lésé, c'est subir un préjudice. Peu importe qui. Non, mais. Alors,
dans votre exemple, c'est celui qui ne voulait pas faire voilà. Le malaisant qui est lésé, quoi.
C'est celui qui voulait obliger qui est le léseur.
Voilà, exactement. Bon,
c'est-à-dire que peu importe qui a lésé, ce qu'il faut, c'est qu'on constate la lésion. Et si on constate la lésion, donc là, on est en droit de réagir, et absolument, il faut identifier la cause de la lésion. Bon. Mais, savoir pose... Lésion, c'est pas assez clair. Alors, oui, je pense que finalement, par réflexion, je me range à ton avis. On a le même problème qu'avec la nuisance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que un jour, lésé, ça va être. Bon, tu m'as dit par exemple, t'es un imbécile. Bon, eh bien, il y a 20 ans, c'était pas être lésé. Aujourd'hui, c'est être lésé, par exemple. Alors, si on voulait garder une unité de formulation, une unité de terme et une unité de concept entre les différentes parties de la Constitution, il faudrait dire « subir une nuisance ». Nul ne peut subir une nuisance. Et à ce moment-là, on retomberait sur la nuisance, mais bon, c'est comme le reste. On retombe sur un concept qu'on a introduit dans la DDHC et qui va être pris d'ailleurs tout au long de la législation, tout en sachant que ce concept
est. Il n'est pas plus précis.
À ce moment-là, il subit notre même critique. On le range dans la critique qu'on a déjà donnée. C'est un concept qui n'est pas défini. C'est un concept qui va être défini au petit bonheur des majorités ponctuelles, etc. Donc, effectivement, alors, effectivement, il semble bien que nul ne peut être lésé. Si on met un synonyme, nul ne peut subir une nuisance dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances, on revient sur cette notion de nuisance qui est fondatrice de tout le droit coercitif, mais qui n'est définie pas dans la Constitution, mais qui n'est définie dans la loi qui est en dessous.
On ne peut pas tout définir dans l'article.
Pourquoi pas?
Non, en plus ça
évolue.
Voilà, ça c'est la grande question. C'est la grande question. Si on met un terme qui n'est pas défini, alors pourquoi est-ce qu'on le met?
Non, mais lésé, on sait ce que c'est, lésé.
Non, justement pas. Non, justement pas. Non, justement pas.
Ça veut dire qu'il subit un préjudice.
Oui, mais le préjudice, qu'est-ce que c'est le préjudice? Pardon, si je te dis, Jean-Noël, tu es un imbécile, bon, c'est un préjudice? Et si je vais plus loin, si je dis Jean-Noël, tu fraudes le fisc, c'est un préjudice?
Je comprends pas pourquoi on essaie de définir vraiment très précisément, alors que ce sont des principes généraux.
Alors, parce que c'est pas un principe, justement. C'est ça. Si on dit... Alors, voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Hein. Bon. Si on dit la Constitution est définie des principes généraux, et ensuite la loi qui est en dessous, elle rentre dans le détail. Elle rentre dans le détail. Bon. Alors, d'abord, ça, c'est intéressant parce qu'on on donne une mission à la Constitution précise. Parce que ça on ne le sait pas même. Hein. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une Constitution? Personne ne nous le dit. Hein. Bon. Mais on pourrait dire, si on se projette déjà dans les mois qui suivent, on va réécrire. Si par exemple, dans quelques mois, on dit on va continuer notre atelier en atelier constituant cette fois, il me semble que l'une des premières questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est une constitution? Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce qu'il y a la constitution, puis il y a les 74 codes juridiques. Enfin, bon, pourquoi il y a une constitution? Pour être très bien, pas y en avoir et avoir que des codes. Bref, ou alors qu'il n'y ait pas de code, qu'il n'y ait qu'une constitution avec des principes, et puis ensuite il y a la justice qui voit si tel comportement il rentre dans tel et tel principe de la constitution. Je ne dis pas ça au hasard parce que c'est des options juridiques qui sont prises par des gens qui réfléchissent à des réécritures. Donc pour revenir à ce que tu dis la constitution ça doit énoncer que des principes généraux. Oui, très bien, encore faut-il que ce soit des principes. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Un principe, c'est une proposition précise qui fonde un raisonnement et qui détermine des modes d'action. Bon, et quand on dit qui est de nature à déterminer des modes d'action, c'est-à-dire qu'avec ce principe, on va pouvoir écrire la loi. C'est ça, déterminer des modes d'action. Et proposition précise, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit précis et qui fonde un raisonnement, c'est que derrière, il y a un raisonnement. Quand je dis qu'il ne faut pas léser, que je dis ça c'est un principe, non, il ne faut pas léser, c'est pas un principe. Pas un principe parce que je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'est que léser. Et si, encore pire, je dis il ne faut pas léser, virgule, et le lésage sera défini par la loi, non seulement c'est pas un principe, mais je dis que c'est pas un principe. Et là on est dans toute l'ambiguïté, en fait, de la rédaction constitutionnelle. C'est-à-dire que, oui, par exemple, un principe, ce serait il ne faut pas porter préjudice. Hein, bon, je sais de simplifier.
Quoi, le préjudice?
Voilà. Ah, non, mais, alors, mais le principe serait de dire il ne faut pas porter préjudice. Un préjudice étant toute atteinte objective à mon intégrité physique ou matérielle.
Et morale.
Et psychique.
Mentale.
Et morale.
Ça, c'est un principe. Alors, il est bien, il n'est pas bien. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est un principe. C'est-à-dire que c'est un principe pourquoi? Parce que on constate une atteinte, une diminution de mon intégrité matérielle, c'est-à-dire qu'on m'a coupé l'avant-bras, on constate ou qu'on constate une diminution de mon intégrité physique, on constate une diminution de mon intégrité matérielle, on m'a pris la moitié des billets que j'avais dans ma poche, ça c'est objectif, on l'a constaté, je subis un préjudice. Voilà, et puis ça s'arrête là, c'est ni plus ni moins que ça. Si je mets autre chose, on va pouvoir mettre autre chose. Encore faut-il pouvoir le constater avec des moyens objectifs.
Il y a aussi le préjudice moral.
Oui, mais le préjudice moral, il faut le définir. Qui? Comment définir? Bon, le préjudice physique, il est constatable par les outils de mesure disponibles par la science actuelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir mesurer, et si on m'a coupé ce bras, je vais pouvoir mesurer qu'il m'en manque 50 cm. Bon. Si on m'a pris... Bon, si j'ai mon compte en banque, j'ai 10 000 euros et qu'on m'a pris 5 000 euros, on va pouvoir constater qu'on m'a pris 5 000 euros. Préjudice moral, je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais il va falloir qu'on explique bien qu'est-ce que c'est qu'un préjudice moral et qu'est-ce que c'est pas un préjudice moral. Parce que si, par exemple, le fait de... moi, par exemple, j'aime pas les gens en Bermuda et je vois passer dans la rue des gens en Bermuda et ça me cause un préjudice. Et donc, en vertu de ça, on est fondé à interdire. Non, mais je prends exprès des exemples outranciers pour bien comprendre qu'il y a un problème. Voilà. Donc, nul ne peut être lésé, nul ne peut subir de nuisance, nul ne peut subir de nuisance pour, dans son travail, dans son emploi, à cause de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Bon, c'est une rédaction qu'on connaît, qui ressemble à celle de la DDHC. Voilà. Alors, par contre, il y a maintenant la cohérence externe, c'est-à-dire, en fait, c'est pas respecté. Alors, même compte tenu de la définition du lésage et de la nuisance par la loi actuelle, on sait ce que c'est qu'être lésé, parce que c'est la loi le dit. Là, si on te dit ça, t'es lésé, ça on peut te dire, parce que t'es pas lésé, la loi n'interdit pas. Jacques nous dit, c'est pas respecté. Bon, alors, on va quand même en parler un petit peu. C'est pas respecté. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui, en raison de leur origine, subissent des préjudices. Mais c'est autorisé. Tu dis que c'est pas respecté.
Le problème, c'est que voilà, c'est pas forcément puni, quoi.
C'est pas puni.
Alors,
en raison, on va prendre un par un. Il y a des gens qui subissent des nuisances en raison de leurs origines et c'est pas réprimé. Alors, tu me donnes des exemples.
Les contrôles aux faciès.
Par exemple, voilà.
Mais c'est pas le travail.
C'est pas le travail. Là, on parle de travail. Non, mais c'est vrai. Non, mais restons dans le truc. Dans le travail. Alors, je précise pour procéder. Le travail, c'est soit l'emploi salarié, puisqu'on dit, on dit emploi au travail, hein. C'est soit l'emploi salarié, soit l'activité que, si je suis travailleur indépendant, mon activité de tous les jours. Bon, alors, donc, qu'est-ce qui n'est pas respecté?
Entre les hommes et les femmes, par exemple, le salaire n'est pas égal.
C'est pas noté
le sexe. Non.
Mais ça vient après.
Non,
ça peut être une origine.
Non, mais restons sur la phrase. Non, les origines, c'est pas le sexe, les origines. Hein. On aurait mis le sexe. Hein.
Origine, ça va être la couleur de la peau.
Ah, origine, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça.
Bon, enfin, c'est clair que c'est plus facile de trouver un emploi comme tu t'appelles
non, là,
Jules que
non, quand mais tu subir un préjudice.
Il dit non, quand tu travailles, pas quand tu vas.
Subir un préjudice.
Non, c'est déjà subir un préjudice. Si entre un Abdel et un Jules, ça sera plutôt un Jules qui sera embauché qu'un Abdel.
C'est pas le cas de la phrase. Non, mais on va le voir dans d'autres cas de figure. On va rester dans ce cas de figure, dans son travail, dans l'exercice quotidien. Il y a un gars qui travaille, et subit un préjudice en fonction de ses origines.
C'est des choses qui arrivent.
Oui, mais qui arrivent, mais qui sont, tu dis qu'elles ne sont pas réprimées. Non, mais que ça arrive, tous les délits arrivent.
Parce qu'il faut le prouver, ce qui n'est pas toujours évident.
Non, mais ça, c'est vrai pour tous les délits.
Non, mais
comprends bien que ce n'est pas du ressort. Là, le fait qu'il y ait un délit, la loi est faite pour ça. Bon, le fait qu'on n'arrive pas à le prouver, c'est le rôle de la police et de la justice. Ça ne met pas en cause. Ce qui serait en cause, c'est que. On ait le droit, en fait, de envoyer un préjudice à des gens dans leur travail et dans leur emploi en raison de leur origine.
C'est pas qu'on avait le droit. Oui. Ce que je te dis, c'est que ça se produit et que c'est.
Pas réprimé.
Et c'est pas réprimé. Ben, c'est des, enfin, bon.
Mais ça peut être son droit, parce que. Si je veux dire, par exemple, ceux qui sont. Comment on appelle ça? Les délégués du personnel ou les syndicalistes, qui sont contre. Ce que dit la direction, ils ont moins d'avancement, ils sont un peu dans les placards, machin et tout.
Bon, alors, là, on a un exemple
mais
concret.
En fonction de leur opinion, ils peuvent être.
Ils peuvent passer.
Voilà, alors.
Bon. Et si on n'est pas syndiqué, c'est encore pire. Si on dit un truc contre la direction ou machin, ben alors là.
Ah, parce que maintenant, un délégué, il n'y a même plus l'emploi réservé en fonction de ce
qui est fini.
C'est
vrai.
C'est vrai que si le gars n'est pas délégué, il prend la porte et c'est. Le syndicat, il doit avoir l'autorisation de l'inspecteur syndical.
Donc,
Et ça, c'est pour les opinions. Voilà. On a passé aux opinions, Christian, ou on est toujours aux origines, là?
On en est aux opinions, là.
Aux opinions, d'accord.
Alors, tu nous dis, David, tu nous dis que, dans une entreprise, le délégué syndical... Alors, vous savez, dans l'entreprise, il y a soit délégué syndical... ou représentant syndical. Bon, il y a des, dans les grandes entreprises, à partir d'un certain seuil de salarié, je ne sais pas lequel, il y a des permanents. Hein, des délégués qui sont permanents, qui sont plus affectés à la production, ils sont permanents, délégués de personnel. Bon. Tu dis que les délégués du personnel subissent des outrages, enfin, subissent des nuisances, sont lésés, parce qu'ils sont délégués du personnel.
Pas forcément parce qu'ils sont délégués, mais parce qu'ils ont des...
Et que c'est pas réprimé.
Si, parce qu'ils sont délégués aussi.
Ah, et que, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Ils ont, alors, bon, celui qui est représentant du personnel... Enfin non, c'est les représentants qui sont permanents ou c'est les délégués? Bon, disons, les représentants du personnel qui sont permanents, bon, ils sont permanents, les délégués du personnel qui continuent à travailler, hein, bon, tu dis que c'est parce qu'ils sont délégués du personnel qu'ils n'ont pas d'avancement.
Oui.
Bon, alors, il y a tous les jours en prud'homme des procès pour ça. C'est-à-dire que lorsque un gars qui est délégué du personnel, il n'a pas d'avancement, et bien en général, ça va au prud'homme. Hein, et si on arrive à prouver. Et le jeu prud'homal, on sait comment ça marche, hein, il n'y a jamais de preuve précise, c'est parole contre parole. Ça se termine généralement par une condamnation de l'employeur. À ma connaissance, il n'y a pas tellement d'employeurs qui s'amusent à jouer ce petit jeu d'emmerder les délégués syndicaux. Alors, c'est un avis tout personnel. De chef d'entreprise, j'étais chef d'entreprise toute ma vie. J'ai jamais été.
Bon, alors, ça, c'est valable peut-être dans les petites entreprises. Moi, j'étais dans une grande entreprise publique.
Ouais.
Là, je peux te dire que j'ai dégusté parce que j'étais militant syndical. Quoi. Mais c'est peut-être plus.
Il y a 40 ans en arrière, non ?
Alors.
Il y a pas 40 ans. Non, il y a 40 ans, c'était différent. Il y a 40 ans, c'était complètement différent.
Mais c'est
les 20 dernières années, plus tard,
ouais.
il y a plus de 200 militants syndicaux à EDF qui sont licenciés. Militants syndicaux.
Oui. Pas parce qu'ils sont militants. Alors, attends, qu'est-ce que tu appelles militant syndical? Qu'est-ce que tu appelles militant syndical?
Des gens qui ont des responsabilités syndicales.
D'accord, donc ils sont délégués du personnel.
Qui peuvent
être ils peuvent même être permanents.
Pas forcément, mais
oui. Aussi. Permanent ou pas permanent,
hein.
Donc ils ont. D'accord. Qui sont licenciés,
hein?
Parce qu'ils sont militants.
Licenciés pour avoir fait grève, par exemple, et avoir appelé à la grève. Non, mais... Alors c'est.
Licenciement pour fait de grève, ça tient pas une seconde en
mais
prud'homme.
Bien sûr, ça tient.
Ah non. Ouais. Non, parce que, à ce moment-là, l'accusation. Bon, c'est un vrai débat.
Le problème, c'est que l'employeur ne va pas te dire c'est pour faire une grève.
Ah voilà,
c'est ça qui est.
Oui, c'est un débat, je ne dirais pas vieux comme le monde, mais enfin vieux comme le syndicalisme. Je ne prends pas position.
Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je parle des 30 dernières années, quoi. Mais il y a 50 ans, quand j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça que ça se passait.
Le problème avec l'opinion, c'est est-ce que ces opinions sur la marge de l'entreprise, on se dit, il faudrait qu'ils fassent ça mieux, machin, et donc on n'est pas forcément d'accord avec le patron,
ou c'est des opinions personnelles sur tel ou tel sujet, quoi. Parce que si c'est sur l'argent d'entreprise, effectivement, ça rentre en conflit, ou si c'est personnel. Donc,
alors
c'est l'employeur doit embêter les gens pour ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que il y a la loi, la Constitution, qui dit c'est pas possible de porter préjudice à quelqu'un pour ses opinions. Bon, ça, c'est écrit. Ensuite, il y a des cas, des procès en prud'homme, des actions, où le litige porte sur le fait que la sanction du salarié, elle est parce qu'il était délégué syndical et pas parce que ce que dit le patron, c'est parce qu'il a mal vissé un boulon, non, c'est pas pour ça. Le débat, il est là. Mais c'est pas du ressort, ça, de la Constitution, c'est du ressort de la justice. C'est-à-dire que la justice, elle. Ce qui serait scandaleux, c'est que dans un procès de prud'homme, dans une action de prud'homme, le patron dise je licencie ce monsieur parce qu'il est délégué syndical. Bon, et alors là, on aurait la Constitution qui dit on ne peut pas licencier parce qu'on est délégué syndical. Oui, on aurait une violation. Oui, mais ça arrive.
Moi, j'ai un patron qui m'a dit tu n'auras pas cette fonction-là parce que pour tes raisons politiques et syndicales. Ça m'a été dit, ça.
Oui.
Bon, je les ai eus quand même.
Oui, mais c'est. Ah ouais.
Les EDF, c'est pas des patrons, c'est des chefs de service.
Exactement. Ça, ils avaient du mal à comprendre.
Non, mais sûr. On a des cas, et ça, on en a déjà parlé.
Tout à fait.
Des cas où la loi s'applique de façon contradictoire à ce qui est écrit dans la Constitution. On en a déjà parlé, on en parle. Là, non. La loi, elle va s'appliquer, c'est-à-dire que si le patron engage une action pour licenciement parce qu'il y a un fait de grève ou parce qu'il y a des délégués syndicales, la loi va s'appliquer et le patron va être débouté. Bon, c'est-à-dire qu'il va, il va dire là, ça se passe pas au niveau de la loi.
Je vais te prendre un exemple que j'ai vécu.
Oui,
c'est quand même intéressant parce que tu n'as pas l'air de comprendre et de le croire. J'avais un collègue qui était prêtre ouvrier, délégué syndical. Il était dans une entreprise à Lannion, d'accord. Et il nous dit un jour, je ne comprends pas, dis donc, le patron il a fait deux sociétés et il y en a une, c'est juste ma machine outil. Il a compris deux mois après. Parce que deux mois après, il a dit la société machine-outil,
elle ferme.
Il n'a pas mis à la porte un délégué syndical.
Il a contourné la loi. La loi.
Ça m'a fait comprendre certaines choses. Oui. Ça, c'était en 73, tu vois. C'est pas d'aujourd'hui. Et le militant syndical, tout prêtre ouvrier qu'il était, il a eu beaucoup de mal à retrouver du boulot. Parce qu'il y avait le réseau qui avait fonctionné. Et n'empêche que c'est quand même anticonstitutionnel.
Non, c'est pas anticonstitutionnel.
Ah, c'est possible.
Non.
La situation est anticonstitutionnelle.
Non. Qu'est-ce qui était alors? Bon, c'est. Alors, qu'est-ce qui était.
Il a subi une nuisance par le fait de son.
C'est le fait qu'il était militant syndical. Alors, c'est pas écrit, puisqu'on a trouvé le moyen contourner la loi. Mais c'est dégueulasse comme procédé. J'appelle ça dégueulasse.
Contourner la loi. Contourner la loi, c'est pas bien. Mais
quand tu vas au tribunal sur un truc comme ça, tu perds. Et on va te dire, monsieur, il a créé une entreprise, ce petit morceau d'entreprise est en faillite. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu peux rien y faire. C'est de la malhonnêteté judiciaire, mais c'est comme ça.
Alors comment est-ce qu'on peut l'éviter? Comment est-ce qu'on peut. Non mais comment est-ce qu'on peut l'éviter ça d'un point de vue. Comment est-ce qu'on peut l'éviter?
J'ai des moyens, mais c'est pas.
Non, mais là, on fait un travail juridique. Comment est-ce que juridiquement on peut l'éviter?
Mais il faut démontrer en fait qu'il y avait une volonté dès le départ, le fait de créer des entreprises, ça a été fait.
Mais ça, c'est le travail de la justice. C'est-à-dire que. On parle de la rédaction de la loi. Bon.
La rédaction.
Oui,
la
rédaction.
Non, oui, non. Il y a la loi, et puis après, les gens font. Il y a toujours la justice qui est là pour décider si c'est normal ou pas normal. C'est pas dans la Constitution, on ne pourra pas régler tous les cas. Il y a un cadre, puis après, c'est le rôle de la justice de savoir si c'est dans le cadre ou pas.
Oui, je suis d'accord.
Parce que vous ne pouvez pas mettre tout quoi, dans une constitution. C'est un canevas.
Je sais pas si vous pouvez mettre tout. Si le principe est assez clair, si un principe, s'il est clair, lorsqu'on dit nul ne peut subir de préjudice par rapport à ses opinions, par exemple. Hein. Bon, restons sur l'idée des opinions syndicales. Bon. La loi, elle est claire, elle dit ne pas subir de préjudice à cause de ses opinions. C'est-à-dire que si on démontre qu'il a eu un préjudice à cause de ses opinions, bon, il va y avoir une sanction. C'est clair.
Oui.
Il faut démontrer. Après, c'est toute la vie. C'est toute la vie des gens. C'est comme quand vous dites, c'est interdit de tuer quelqu'un. Oui, c'est interdit. Bon, mais si vous tuez et puis qu'on démontre pas que c'est vous, voilà. Là, on s'en sort pas. C'est une discussion qui a strictement aucun intérêt. Là.
Oui.
Hein? Bon, il s'agit d'un point de vue juridique. Il s'agit de savoir si le truc il est bien écrit, s'il veut dire quelque chose, s'il a du sens, s'il est clair.
Oui. Bon,
à partir du moment où on dit oui, non, parce que faut pas déplacer le débat du juridique. Hein, au comportemental. Est-ce que le juridique est bien écrit ou pas?
Oui. Là, je suis d'accord. Et par exemple, pour le cas de monsieur, pour les deux sociétés, est-ce qu'il a fait pour ça ou c'est une interprétation? C'est différent. Ça l'arrangeait peut-être à leurs deux sociétés pour telle et telle chose. C'est ce que je veux dire. Il y a des cas où c'est clair et net, tu ne l'auras pas, où cette phrase-là sur les origines, opinions ou croyances est nette. Mais après, si on va dire un entrepreneur n'a pas le droit de faire de société, il y a des cas où ce n'est pas pour simplement virer les gens, mais pour travailler, on est obligé.
C'est
difficile d'intervenir sur certains cas. Quoi. Nous, je peux vous citer un cas, parce que nous, c'est arrivé. On travaillait avec les collectivités locales. Et ben, c'est même les clients qui nous ont demandé de faire d'autres sociétés, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas travailler, parce qu'on n'était pas régional. C'était pas pour les travailleurs et tout, c'est pour avoir une entité régionale. Et c'est arrivé une fois, un appel d'offres, notre société principale a mis un prix plus cher que la société, non, moins cher que la société régionale. Ben, c'est la société régionale qui aime le marché. Alors, quand vous voyez ça, c'est les clients qui étaient des fonctionnaires qui vous demandaient ça. Donc, mettre ça dans les bois, vous allez dans les Alpes, si vous n'êtes pas savoyard ou si vous n'êtes pas isérois, vous ne travaillez pas, parce que vous êtes lyonnais.
Les origines, ouais, ouais, exactement.
Les origines, oui, mais allez faire en français.
C'est compliqué. Parce que c'est pas si simple.
C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tout mettre dans une.
Non, mais c'est bien en plus. Enfin, qu'après, il faut que la justice juge.
on ne peut pas tout mettre, je ne sais pas ce que ça veut dire tout mettre. Il s'agit de savoir si la loi, elle est précise ou pas. Plus la loi est précise, moins la justice a besoin de trancher. Plus la loi est large, plus la justice devient interprétative de la loi. C'est-à-dire que le juge dit, on peut dire que lésé, voilà, il est lésé, moi je pense qu'il est lésé, non, moi je pense qu'il n'est pas lésé. Et puis les deux parties vont s'affronter en disant non, il n'y a pas de préjudice, mais si, il y a un préjudice. Bon, voilà. Mmh. À partir du moment où on définit de façon claire ce que c'est que le préjudice, un préjudice c'est quand je constate que physiquement il manque quelque chose, par exemple, hein, la justice va être automatique. Ça va être simplement la vérification factuelle de la réalité objective de la chose. Voilà. C'est un débat qui existe aujourd'hui entre une justice qui va être assez administrative, qui va appliquer des sanctions qui sont très très précises par rapport à des faits précis, ou simplement, ou plutôt une justice qui interprète des dispositions assez larges. Aujourd'hui, le code pénal, par exemple, c'est une table de la loi qui n'est pas extrêmement précise. Elle n'est pas extrêmement précise pour tout un tas de raisons. D'abord, je ne sais pas, hiérarchiquement, prioritaire, quand je dis d'abord, c'est pas dire que c'est plus important, on a des échelles de sanctions qui sont très larges pour un même délit, on a les notions de circonstances atténuantes et aggravantes qui fait que sur un même délit précis, c'est-à-dire qu'on me coupe la moitié de mon bras, suivant qui me l'a coupé et pour quelle raison, il va avoir des circonstances atténuantes ou aggravantes, et ça c'est uniquement la justice qui va en décider. Et puis, on a des définitions de nuisances qui ne sont pas forcément très claires. Et là aussi, c'est la justice qui va en définir. Bon, c'est l'option de la justice en France, hein, depuis un certain nombre de dizaines d'années, qui est une justice qu'on appelle personnalisée, justice sociale, justice psychologique, où on s'intéresse surtout à l'auteur du délit, plutôt que à la victime du délit et au délit lui-même. Voilà. Bon. Je suis pas hors sujet. Je reviens sur ce que quand tu dis, on peut pas tout écrire dans la loi. Le problème, c'est pas d'écrire dans la loi tous les cas de figure. Le problème, c'est de déterminer un principe précis qui lui va irradier tous les cas de figure. Si je dis une chose précise, par exemple, je reviens toujours à mon exemple, c'est un délit de couper un bras, bon, ben on va regarder si le bras a été coupé, soit il est coupé, soit il n'est pas coupé. Voilà. Et si on dit c'est un délit d'embêter quelqu'un, bon, ben là, c'est ça le problème. Alors, pour revenir à notre affaire, on est apparemment pas tous d'accord pour dire que cette obligation de ne pas léser quelqu'un dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances n'est pas respectée en ce sens où on a des constatations objectives de nuisance en raison des opinions notamment, et que la loi ne le sanctionne pas. Bon, il semblerait que...
Parce que là, la phrase est claire quand même.
Oui, justement, la phrase est dit.
Le problème, si elle est respectée ou pas.
Oui, non, mais entendons-nous bien sur ce que ça veut dire respecter. Ça veut dire ça veut pas dire qu'il y a des délits. Si je dis c'est écrit qu'on ne doit pas embêter les gens par rapport à leurs opinions, et pourtant ils sont embêtés, Donc vous voyez, c'est pas respecté. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire il y a des délits par rapport à ça. Bon, ben, oui, c'est pas parce qu'on interdit quelque chose que ça ne se passe pas. C'est pas parce que j'interdis. À ce moment-là, vous dites, il est interdit de tuer. Ah, il est interdit de tuer, mais je constate des gens qui tuent. Oui. Voilà, je constate des gens qui tuent, mais le problème, c'est est-ce qu'on les punit? Ça, le problème. C'est, le problème, c'est pas de dire comment se fait-il qu'il y ait des gens qui tuent alors que c'est interdit. Là, on va dire comment se fait-il qu'il y ait des délégués syndicaux qui soient embêtés alors que c'est interdit dans la Constitution. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est comment se fait-il qu'il y ait des délégués syndicaux qui soient embêtés par leur patron et que leur patron soit absous. C'est ça le problème. Bon, et donc la question, c'est est-ce que lorsque un délégué syndical est licencié pour fait de grève, ou licencié parce qu'il y a un délégué syndical, est-ce que ça existe ça? Est-ce que la justice entérine? Est-ce que si un délégué syndical...
Sûr que non. J'ai une injustice comme ça.
Ça, on peut dire ça de tout à ce moment-là. On peut dire ça de tout. Le problème. Non mais. C'est important ça, parce que là il y a une confusion. Une confusion entre le juridique et l'émotion. On n'est pas dans le factuel, on est dans l'émotion. Dire que il y a des délégués syndicaux qui sont licenciés pour des motifs qui sont des prétextes. C'est-à-dire qu'ils sont licenciés parce qu'ils ont oublié de visser un boulon, et en fait, c'est pas vrai, le boulon il est vissé, mais ils sont licenciés. Moi, je dis que c'est pas à cause du boulon qu'il est viré, mais c'est parce qu'il est délégué syndical. Moi, je le dis. Et puis, je suis pas le seul, voilà. Bon. Oui. Bon. Mais, a priori, il y a une justice qui s'appelle le tribunal de prud'homme, qui va instruire l'affaire. Et dans l'affaire, il va y avoir les défenseurs délégués syndicaux qui vont dire, écoutez, monsieur le juge, notre collègue a été licencié parce qu'il avait mal vissé son boulon, mais moi je vous dis, c'est pas vrai. Il était licencié parce qu'il était délégué syndical. Et puis, le représentant du patronat qui va dire, non, monsieur le juge, c'est pas vrai, non, pas du tout parce qu'il est délégué syndical, au contraire, très content que ce soit délégué syndical, mais il a mal vissé le boulon, et puis ça fait que la machine l'a pété à cause de ça. Et puis, la justice, elle va trancher. Alors, bon, après, on fait un procès de la justice, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas la loi qui est mal écrite, là. S'il y a un problème, ça vient pas du fait que la loi est mal écrite. Ça vient du fait que les gars qui sont au tribunal de prud'homme, c'est des pourris, des vendus. C'est un autre débat. C'est un débat sur la justice. C'est pas un débat sur la rédaction de la loi.
C'est vrai que c'est un débat sur la justice.
Si vous voulez, parce que le débat sur la justice, il existe. Faut pas se tromper de truc. Faut pas dire la loi est mal écrite parce que les juges sont achetés par la partie civile. C'est autre chose. Par contre, il y a des fois où la loi est mal écrite. Et donc ça génère des inégalités. Mais quand la loi dit on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est délégué syndical, quand elle le dit, grosso modo, c'est ce qu'elle dit là. Hein. Quand elle le dit, et que le gars il est licencié pour un prétexte, c'est un problème de justice, pas un problème de rédaction de la loi.
Oui, mais bon, il y a des fois où, là c'est des cas un peu extrêmes, mais les discriminations souvent elles sont faibles. On fait pas appel à la justice, c'est compliqué quoi. Les femmes qui effectivement sont moins payées, alors ça remonte de plus en plus machin.
Alors, très, très bon exemple, là c'est que la loi est mal écrite. Parce que la preuve, c'est qu'on est en train de l'écrire maintenant.
Oui.
Voilà. Et que, effectivement, dans cette phrase-là, on n'a pas l'égalité du salaire obligatoire entre les hommes et les femmes, donc quel que soit le sexe, et qu'il y a une sanction, hein, parce qu'une loi sans sanction, c'est une loi, et que si On a la constatation objective qui a pour un même travail une différence de rémunération entre l'homme et la femme. On a une loi qui l'écrit et qui dit qu'il y a une sanction.
Oui, sauf que montrer ça, c'est compliqué. Pour, quand on a effectivement des opinions différentes et puis qu'on est un peu les deux côtés, machin, mais pas forcément viré, c'est pas facilement faire montrer. Enfin, c'est comme ça. Pas si simple.
C'est pas si simple.
Non, non, mais.
C'est bon, c'est écrit.
Non, 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 mais vas-y, si tu veux préciser, j'ai bien compris pour l'égalité sexe, la, salaire, mais là, j'ai pas compris ce que tu viens de dire, là.
Sur la... effectivement, sur la discrimination, des opinions différentes, on peut être discriminé, ouais. Parce qu'on va avoir moins d'avancement, qu'on sera peut-être... On n'aura pas le pourcentage, parce que c'est tout pourcentage, il y en a un qui va avoir 6% tous les ans, l'autre, il aura 1, je sais pas, On va juste dire, ah ben toi t'es moins performant.
Non mais encore une fois,
on peut pas. Enfin,
c'est une excuse de rabâcher, encore une fois, on se débat, il s'agit de le prouver.
Voilà.
Voilà, bon mais la loi elle existe, c'est écrit.
Mais prouver.
Ah ben oui.
C'est
obligé.
Oui. D'accord.
La loi ne peut pas faire la preuve. Bon, là, c'est une grande vérité humaine, une grande vérité de l'organisation sociale. La loi ne peut pas à la fois édicter une loi et faire la preuve. Et c'est pour ça qu'il y a la police et la justice. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule institution ? Parce que la justice, elle applique la loi. La police, elle réunit les preuves. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça,
dans
parce que...
Dans les lois du travail, il n'y a pas de preuves.
Quand ?
Il n'y a pas de police dans les lois du travail.
Si. Alors, inspecteur du travail, oui.
Oui.
Oui. Et puis le juge... Alors, bon, la séparation que je fais, elle n'est pas aussi rigide que ça, parce que, en fait, bon, c'est un peu schématique de dire la police réunit les preuves et la justice juge. Parce qu'en fait, la justice est réunie. Non, la police, elle instruit, elle amène l'affaire. Et la justice, c'est vrai, elle a deux. Hein, elle réunit les preuves, hein, elle construit les preuves, elle les met en forme, et ensuite, elle fait le procès. Bon, et
débat, quoi.
Voilà. Mais on ne peut pas écrire la phase de preuve. On peut pas le. C'est bon, c'est le côté anthropomorphique de la loi. La loi est une abstraction. Hein, et puis elle prend une forme humaine à partir du moment où on réunit la preuve qui va permettre d'appliquer la loi.
Oui, c'est vrai. Par contre, on peut peut-être rajouter des choses. Par exemple, que les délibérations des entreprises, tout ce qui est comité de rémunération, que ça soit porté à la connaissance des délégués syndicaux, machin, de comment les salaires ont été déterminés, à qui on a donné quoi, machin, que ça soit beaucoup plus ouvert. Et donc la loi, elle dit, quand vous donnez des salaires à quelqu'un, eh ben, il faudra que toutes les parties prenantes de l'entreprise participent à cette... Enfin, vous imaginez ces choses-là aussi.
Oui, alors... Bon, très intéressant.
Mais c'est pas la constitution, peut-être pas.
Non, alors voilà. On revient à ce que disait Jean-Noël. Là, tu nous décris une réglementation extrêmement précise, qui est une réglementation... destiné à intervenir au sein de l'entreprise. Bon. Est-ce qu'on peut le mettre dans la Constitution ? Bon, de toute façon, si on décide ce qu'on veut, on peut, si on décide que... Mais est-ce qu'on peut la traduire en principe ? Si on reste sur l'idée que la Constitution, elle détermine des principes, et qu'ensuite la loi, elle rentre dans le détail. Mais encore une fois, la loi n'est que la déclinaison du principe. On a dit détermination. Alors,
le principe, j'y pense.
Ça fait quoi ?
Que la...
comment on appelle ça, les... le, pas le bénéfice, mais le gain, le...
La marge.
Non, de la, ce qu'on donne à quelqu'un.
La rémunération.
Oui, la rémunération. Mais c'est plus général peut-être que la rémunération, mais effectivement. Ouais, enfin, pourquoi pas. Rémunération doit être agréée par toutes les parties prenantes à... pour dire même plus large que l'entreprise, mais bon...
Ouais, quoi. Faut y réfléchir. Non, non, non. Faut laisser accoucher, parce que là, il est...
C'est possible encore sec.
L'idée, c'est d'inscrire, serait d'inscrire dans la Constitution... Mais quand tu dis plus loin... Ça veut dire que tu aurais l'idée que les rémunérations dans les entreprises, elles procèdent un peu d'une concertation générale de tous les citoyens.
Voilà. Non, pas forcément tous les citoyens.
Est-ce que ça reste interne?
Qui reste interne?
Ça reste interne.
Bon, à ceux qui produisent le, enfin,
la branche.
En partie, ouais, la branche.
La branche. Alors.
Non, pas la branche même, c'est chaque produit.
Ah non, mais soit on est. Attends, ça dépend du niveau. Hein. Soit on est dans l'entreprise, soit on est dans la branche, soit on est dans le pays. Bon, les accords de branche existent. Hein.
On parle des augmentations générales.
Non, particulières. Mais là, effectivement, ça serait l'entreprise.
Oui, mais c'est plus la Constitution.
Non, parce que ça. Parce que là, on a.
C'est pas entreprise, mais c'est par quantité productrice de valeur. Donc, des fois, c'est une entreprise, des fois, ça va être. Je sais pas, c'est pas forcément une entreprise, ça va être une collectivité locale, ça va être. Enfin, n'importe quelle entité qui n'est pas forcément dénominée entreprise, mais qui rémunère, quoi. Enfin, qui apporte quelque chose à quelqu'un. Enfin, un truc générique, quoi.
Ah, mais là, on a des trucs qui existent, ça s'appelle les conventions collectives.
Oui.
Bon, et les accords de branche.
Oui.
Bon. Suivant les conventions collectives qui sont assez différentes les unes des autres, hein, il y en a qui sont.
Et les conventions collectives, on pourrait se dire pourquoi il y en a plusieurs, pourquoi il n'y a pas une générale pour tout le monde.
Parce que les entreprises.
Ah ben, la convention collective pour tout le monde, ça s'appelle le droit du travail.
Les conventions de travail sont différentes. Hein, bon,
il y a le droit du travail en haut, après il y a les conventions collectives et les accords de branche.
Par exemple, les banques, elles ont une convention collective, un truc où ils ont tout un bénéfice. Quoi. Pourtant. Alors eux, la difficulté du travail, on peut en parler.
C'est pas sûr.
Il ne faut jamais dire ça. Il faut avoir fait le boulot pour pouvoir le faire.
Ceux qui sont en déplacement, ils ont droit à d'autres choses. Ce qui est normal, donc ça devient
chaque type de
l'entreprise.
Si il y a des déplacements en face, c'est comme ça, ça veut dire qu'on peut... Bon, après, c'est encore un autre débat.
Non, moi, je pense que comme c'est fait, c'est pas trop mal encore. Il y a toujours à améliorer, c'est rien d'idéal.
Est-ce qu'on est vraiment dans le sujet où on était parti de. On essayait d'étendre, hein, pourquoi pas, la notion de nuisance par rapport à. Ses opinions, ses origines, ses croyances. Alors, on a dit les femmes, oui. Après, David nous parle des salaires. Bon, c'est vrai que c'est une nuisance.
C'est quand même moins de salaire pour une femme par rapport.
Il a élargi.
C'est normal.
Oui. Alors, ce qu'on a dit, c'est que c'était pas écrit là, mais on l'a écrit maintenant. Hein. On a écrit maintenant. Mais pas dans la Constitution. Hein. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a une loi, effectivement, on en parle. Je ne sais pas s'il y a une loi qui permet de d'ester en justice lorsque on vient prouver que pour deux postes identiques, il y a une différence de salaire entre un homme et une femme. Je ne sais pas si la loi existe. La
question salariale, elle y est maintenant.
C'est assez récent.
Non. Elle est sur le papier, je ne dis pas qu'elle est respectée. Oui.
Ça dépend des entreprises, les entreprises aussi respectées.
Non mais, alors, Véronique, tu dis, si la loi est sur le papier et qu'elle n'est pas respectée, je dirais à la limite, c'est pas grave, et pour nous, c'est pas notre problème. Hein. Bon, la loi existe, elle n'est pas respectée. Bon, c'est qu'il y a s'il y a un problème de justice, de police, de voilà. Bon, nous, notre problème, c'est quand la loi est contradictoire avec la Constitution.
Par contre, c'est vrai que maintenant, ça devrait être marqué dans une nouvelle Constitution.
Parce que si on fait une constitution, si on change la constitution...
Non, si on en fait une.
Ah, si on en fait une,
c'est vrai que c'est dedans que ça devrait apparaître.
L'article 3 que nous avons étudié la semaine dernière, c'est la loi garantie à la femme dans tous les domaines, les droits égaux. Donc elle dit bien...
Là, je suis désolé, il n'est pas respecté cet article 3.
Donc le droit salarial...
Alors...
Oui, c'est marqué.
Il n'est pas respecté.
Mais la justice est là.
Non, mais Jacques, ouais. Exact. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est écrit, mais il n'y a pas une loi contraire. Il y a tout simplement c'est écrit, c'est pas respecté. Oui, comme toutes les lois, il n'y en a aucune qui est respectée.
C'est souvent comme ça.
Mais non, mais tu vas toujours trouver un gars, pour n'importe quelle loi, tu vas trouver des contrevenants à la loi. Bon, donc, c'est pas la peine d'en parler. Ça ne sert à rien.
Là, c'est pas quelques gars.
Non, mais.
C'est quand même 5 milliards d'euros de plus pour la sécurité sociale. Si
non, mais c'est
des femmes.
C'est pas notre. Voilà. C'est pas notre. Pour l'instant, c'est pas notre job. Pour l'instant. C'est pas notre job. On n'est pas redresseur de tort, on n'est pas... Non, on fait un travail juridique. Donc, c'est bien écrit que la loi garantit à la femme, c'est écrit même dans la Constitution, donc c'est coulé dans le marbre. Bon. Donc, les droits, notamment les droits de rémunération, c'est écrit. C'est pas la peine de l'écrire, donc tout ce qu'on vient de dire, c'est pas la peine de dire que ça existe. Après, c'est pas respecté. Ah ben très bien, ben, alors on fait des procès. Et puis on sort ça, oui, vous voyez, on fait le même travail, elle gagne 20% de moins que moi. Voilà.
Et on peut gagner avec ça?
Ah ben on est obligé de gagner.
Bah, t'es obligé, oui, bien sûr.
Obligé de gagner. Alors, que ça ne soit pas débusqué, que personne ne se porte partie civile, c'est un autre débat. Il ne faut pas dire que la loi ne permet pas de le faire.
D'accord.
Voilà. Alors, ensuite, tout homme, alors homme et femme, hein, on va leur laisser la bénéfice du bon, peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Je ne dis plus rien.
Non.
Là, je vais voir la minute.
Ah oui, c'est bien. On avance. Il a compris. Alors, non, ce qu'on peut faire, c'est un petit historique de cette affaire-là. Parce que tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de poids. C'est, ça coule dans le marbre, le droit syndical.
Il n'y a pas d'obligation.
Chose qui n'a pas été toujours le cas. Il y avait la loi Le Chapelier qui interdisait justement. Interdisait de se syndiquer en corporation.
En quelle année?
La loi Le Chapelier, c'était après la Révolution française.
Et puis la section syndicale a été reconnue qu'à partir de 1968.
Oui, dans l'entreprise. Alors, ce serait intéressant de faire un historique de la législation syndicale. Depuis, alors, mais il faut remonter même avant 1789, parce que les corporations existaient sous l'Ancien Régime, et de voir un petit peu comment ça a évolué. Il y a eu des hauts et des bas, et toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est inscrit dans la Constitution, en bonne place, on a le droit de défendre ses droits et ses intérêts, notamment par l'action syndicale, et d'adhérer au syndicat de son choix. Alors, adhérer au syndicat de son choix, ça veut dire que la Constitution, enfin, on dirait qu'elle a l'air de rejeter le syndicat unique. Hein. Syndicat de son choix. Non, mais le fait qu'on ça paraît évident, mais le fait que Oui. Que la Constitution ait pris le soin de dire au syndicat de son choix, ça veut dire qu'il y a peut-être, il y a peut-être un petit problème, que des fois on ne peut pas choisir. Enfin, non, bien, on précise bien qu'on adhère au syndicat de son choix.
Ça a été écrit en 1946. Bon, il y avait deux principaux syndicats, la CGT et la CFTC.
Ah, mais il y en a deux, ça va. Hein.
Donc c'est pour ça que ça a été écrit,
mais
comme ça me paraît.
Sous le paternalisme des Schneider, de Adèle et compagnie, et donc avant la guerre de 40, et ils ont créé une espèce de syndicat maison.
Oui,
hein, et là, tu pouvais adhérer qu'au syndicat du patron.
Patron. Ben,
donc c'est pour ça que...
C'est la liberté, ça.
C'est...
Oh, pardon.
Bon, oh, c'est formidable, on est tous d'accord là, sur cet article. Alors,
passons suivant.
Article suivant, toujours dans le même registre. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Ça, c'est le genre de phrase.
Alors là,
ça, c'est le genre de phrase qui me tue, ça. Enfin, bon, qui nous tue d'ailleurs, mais non, on est très sensible. Hein. Tout de suite, on le sent. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
C'est quoi ces lois?
Ça dit juste que c'est un droit de grève qui existe.
Non, mais bon, alors, c'est vraiment. C'est vraiment malsain comme rédaction, parce que.
C'est clair.
Soit on se contente de dire la Constitution garantit le droit de grève.
Oui. Terminé.
Hein? Mais il s'exerce dans le cadre des lois qui réglementent.
C'est-à-dire que, par exemple, un service public qui veut faire grève, il doit prévenir tant de jours avant qu'il va faire grève.
Ah ben donc ça dépend de la loi.
Entre autres, une partie de la loi, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Hein,
mais oui, mais elle peut changer. Hein. Ça peut changer du jour au lendemain. Ouais. Donc c'est toujours pareil. Hein. Ça ne veut strictement rien dire. Soit on se limite à dire...
Il y a le droit de grève.
Oui, le droit de grève ne peut pas, par exemple, on pourrait dire le droit de grève ne peut pas être supprimé. C'est-à-dire, le droit de grève est sacré, parce qu'il y a des droits sacrés, là c'est la propriété, le droit à la sûreté, etc. Et on pourrait, je vois, la préambule de la Constitution de 46 peut ajouter un nouveau droit sacré qui est le droit de grève. Et puis on s'en tient là.
À part qu'il y a des métiers où ils n'ont pas le droit de grève.
Mais
oui. Donc du coup, il faudrait déjà le mettre dans la
Constitution. Les militaires n'ont pas le droit.
Oui.
C'est pour ça que c'est comme ça.
Non, enfin.
Mais entre autres.
Et pour laisser la facile à préciser.
Il faudrait préciser, voilà. Mais je dis, voilà, on ne pourrait pas dire le droit de grève est sacré. Il faudrait préciser.
Selon les lois qui arrivent.
Oui, alors là, du coup, c'est bon. Là, du coup, c'est bon, oui, mais. De façon juridique, cette phrase ne veut vraiment rien dire. Le droit de grève,
c'est dans
le cadre du droit qui le réglemente. Le droit de grève, d'abord, il n'est pas défini. Il arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On a parlé des droits de l'homme, on a pas parlé de droit de grève. Hein? Et donc, c'est mal rédigé. De toute façon, hein, sans avoir d'option, d'opinion politique par rapport au droit de grève... Au niveau des principes, elle doit affirmer le principe du droit de grève.
Ouais.
Et ensuite, dire, éventuellement, que il est réglementé dans son détail par la loi. On affirme... Parce que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui réglementent. S'il y a une loi, par exemple, qui dit qu'il n'y a pas de droit de grève, c'est bon, c'est cohérent.
Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs de plus en plus. Pardon.
Non, mais.
Si, c'est.
De plus en plus, il n'y a que dans la fonction publique que le droit de grève peut être interdit. Non ?
Pour l'instant,
Jacques.
Je ne peux pas dire.
Moi, jusqu'à présent, j'étais dans la fonction publique, on faisait grève, on ne l'a jamais interdit.
D'ailleurs, c'est même fou, il y a le droit de grève, qu'est-ce que je raconte, il est autorisé dans la fonction publique.
Oui, bien sûr.
Il n'y a que dans l'armée qu'il interdit.
Oui, l'armée,
c'est interdit.
Oui,
c'est pareil.
Oui,
gendarmes et
l'armée. Dans la police, c'est autorisé.
Ils ont dit
la gendarmerie. Il n'y a que les militaires qui ne peuvent pas.
Les militaires n'ont pas compris. Les gendarmeries, c'est les militaires, ça ne veut pas.
Oui, parce qu'il y a les syndicats de police autonome.
Ils n'ont même pas le droit de manifester d'ailleurs.
Alors après, c'est allergique
d'abord.
Le droit de grève de leurs femmes, c'est leurs femmes.
En fait, il y a des gens qui ont le droit de grève, mais ils sont réquisitionnés. Donc en fait, c'est quand même une atteinte au droit de grève.
C'est une restriction.
Ben oui, mais du coup, hein, mon problème aussi, si vous avez non, mais après 33, oui.
Bon, est-ce qu'on peut accepter cette rédaction ? Encore une fois, on ne se prononce pas sur le fond. Hein. Est-ce qu'on peut accepter cette rédaction ? Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ?
Non.
Moi, je trouve que c'est la limite des choses.
Comment ?
Je trouve que c'est...
C'est limite, oui.
Ça limite...
Énorme.
On peut mettre n'importe quoi derrière qui interdise le droit de grève. Oui. Dans la loi.
Dans la mesure où on n'affirme pas que le droit de grève
est constitutionnel,
que le droit de grève est inaliénable.
Est inaliénable, voilà.
Voilà. Après, il peut être réglementé.
Bien sûr.
Il y a des conditions aussi. Hein.
Bien sûr.
Parce que...
Bien sûr.
Ou alors, on peut être encore plus radical, dire que le droit de grève est inaliénable, et puis...
Il y a des conditions quand même, qu'un service minimum et tout, parce que le droit de grève, généralement, c'est parce qu'on est en contradiction avec l'entrepreneur. Mais il y a des grèves qui n'embêtent pas l'entrepreneur, qui n'embêtent pas le chef, embêtent les autres.
Oui. Non mais là on rentre dans le détail de la loi. Hein. Il s'agit de savoir si au niveau de la Constitution, justement, on peut mettre c'est toujours réflexion sur les principes. Hein. Si on dit simplement le droit de grève est inaliénable et sacré, c'est-à-dire que on peut pas dire il n'y a pas le droit de grève, mais on va pouvoir le réglementer comme on veut. Et qui dit réglementation, le réduire comme peau de chagrin ou se mettre plein de...
Il faut définir les cas. Il faut définir les cas.
C'est fait actuellement. Les hôpitaux, ils n'ont pas le droit de faire je pense.
Si, ils font grève, mais ils sont réquisitionnés.
Ils sont réquisitionnés, donc en fait,
les infirmières sont réquisitionnées.
Ils sont en grève, mais personne ne le voit.
Il y a moins de personnel, ça, en soi.
Ouais, enfin, comme ils sont déjà au minimum.
Oui, on voit pas les
avant, en effet, on voyait peut-être la différence, mais maintenant, comme c'est déjà le minimum, ils sont au minimum du minimum. Voilà.
Il semble quand même qu'au niveau de la Constitution, on peut se limiter à affirmer. L'inviolabilité du droit de grève.
Ouais.
Hein? Ouais. Sans en dire plus. Alors, le point 8, ça rejoint ce que disait David un petit peu. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Qu'est-ce que ça pose comme principe, ça ? Parce que ça pose un principe.
La gestion des entreprises.
Oui,
ouais. Pas trop.
Non, mais qu'est-ce qu'il dit cet article ? Je le relis. Il est important, hein, parce que...
C'est par l'intermédiaire.
Oui, donc c'est
comment
pas eux-mêmes.
C'est par l'intermédiaire.
C'est pas eux-mêmes.
Voilà. Alors, il dit plusieurs choses. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Comment est-ce qu'on peut, non pas le résumé, parce que c'est déjà un résumé, mais ça traduit quel concept au niveau de l'entreprise ?
C'est la co-gestion en complète ?
Oui, la gestion. C'est ça. Parce que...
C'est par exemple.
Non, c'est pas la co-gestion
en complète. Non, c'est on ne parle pas de la gestion de l'entreprise. Hein. Là, on parle. Des conditions de travail, ainsi que la gestion de l'entreprise.
Alors, moi je vous prends un exemple parce que ça date de la même époque. Le statut des EDF permettait à l'époque, avait créé des comités mixtes à la production Et dans le comité mixte à la production, on avait comme mission évidemment de regarder l'organisation du travail, mais aussi de proposer des économies. Comme quoi, c'était de la gestion, quoi. Mmh. Ça a disparu, ça. Mais j'ai connu ça. Il y avait une gestion hyper démocratique. Maintenant, ça... Alors, on n'était pas... les organisations syndicales n'étaient pas décideurs. Hein, dans cet organisme-là, on était consultatifs. C'est tout.
Mais c'est pas bon. Normalement, on détermine la gestion des entreprises. Déterminer, ouais. Ça veut dire décider.
Ah, oui.
Ouais, bah, ça, donc, c'est un là, il y a combien
de temps dans l'année.
C'est écrit, là.
Alors ça c'est énorme ça.
C'est énorme.
Il y a plus d'industrie.
Alors on va relire la phrase. Aussi, hein. C'est énorme ça. Tout travailleur participe, alors, par l'intermédiaire de ses délégués, ça le système représentatif. Alors on va s'arrêter deux secondes là-dessus. Ça veut dire qu'on ne parle pas de soviet d'usine.
Le
soviet d'usine.
Ouais. Ça marchait comment, le
soviet? Ça veut dire que tout le monde donnait son avis.
D'accord.
Là, on est dans le système représentatif, c'est-à-dire que la gestion d'entreprise avec les patrons, elle va se faire entre les patrons et puis l'équipe des représentants. On n'a pas des assemblées, des agora qui décident.
Bon. C'est quand même une pyramide.
Non, mais ça c'est un autre débat. Oui. C'est un débat sur la représentation par rapport à la démocratie directe. Mmh. Bon. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que par l'intermédiaire de ces délégués, donc les délégués du personnel participent à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises. Donc, les délégués du personnel participent à la détermination collective, c'est-à-dire collective, avec les patrons, c'est collectif, à la gestion des entreprises. Donc ça veut dire que la Constitution dit que les entreprises doivent être...
Co-gérées.
Alors, il ne dit pas vraiment co-gérées,
non.
Il dit que ça participe...
Ça ne veut pas dire qu'il décide avec.
Il
peut donner un avis, au final.
Participe à la détermination.
Ça veut dire qu'il décide.
Ah oui, non mais... Alors, je relis la phrase.
Mais participe à la détermination.
Participe.
Participe à la gestion des entreprises.
Oui, très bien.
Mais
oui.
Il participe aussi à la gestion des entreprises.
Voilà.
Comment ils participent?
Exactement.
Mais ils ne sont pas décideurs. De toute façon.
Ils participent, mais comment?
Ils sont présents, quoi. Ils
tu donnes ton avis, mais...
Attendez. On va relire, en enlevant certaines phrases au milieu. Tout travailleur participe à la détermination collective de la gestion de l'entreprise.
C'est pas comme ça que c'est écrit.
C'est écrit comme ça.
Ah non, il manque de mots là.
Participe bien sûr, à la détermination ainsi que la gestion de l'entreprise. C'est A,
la détermination des conditions de travail.
Ainsi qu'A, oui, alors. Non mais, attends.
À la gestion de l'entreprise.
Les deux.
Aux conditions de travail
et à la gestion.
Non mais d'accord. Bon, les conditions de travail, on va, c'est moins important.
Oui.
Ouais.
Ah bon.
Non. C'est pas.
Tout est important. Tout est important.
Alors, ce que je veux vous faire, vous questionner sur la gestion de l'entreprise. On va se concentrer là-dessus. Mmh. C'est pas con. Conditions de travail, ça brouille notre raisonnement. On va se concentrer sur la gestion de l'entreprise. On nous dit, la Constitution nous dit que les travailleurs participent à la détermination collective de la gestion des entreprises. Ça ne dit pas ça? D'accord. Non mais David, dis-nous pourquoi ça ne dit pas ça?
Pour moi, c'est plutôt tout travailleur participe à la détermination collective ou à la gestion des entreprises.
Non, ainsi.
Au lieu de dire ainsi, j'ai fait où? Bon, mais ok. À la détermination et à la gestion des entreprises. Et pour moi, c'est deux choses. Là, c'est pas. Vous voyez, c'est pas à la détermination de la gestion des entreprises. C'est pas la détermination de la gestion des entreprises. c'est juste la gestion.
Alors, ça devient, d'accord, ok, ok, non mais on avance, ça devient participe à la gestion des entreprises.
Voilà. Participe à la gestion. Bon, mais alors, participer à la gestion d'entreprise. Alors, bon, ok.
Alors. Alors attendez, on va se faire engueuler là. Bon, voilà, faut partir.
Déjà,
on va plancher là-dessus, parce que participer à la gestion des entreprises, c'est quand même participer à la gestion d'entreprise. Hein.
C'est vrai. Non,
mais ça va bien. Est-ce que c'est pas bizarre d'avoir un devoir en fait ? Parce qu'il n'y a pas le mot devoir, mais comme c'est le présent.
Il y a devoir ou peu ?
Il y a pas de devoir, il y a le devoir.
Il y a participe.
Tout pour travailler, participe.
Tout pour travailler, participe.
Droit et devoir.
Ce que tu avais dit
par rapport à.
À
l'emploi.
Aujourd'hui, il y avait un devoir.
C'est l'article 5.
Non,
je me souviens.
C'est l'article 5.
Oui, non, mais j'ai noté.
Ouais.
Donc, tout travailleur doit participer.